7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM.
Comme tous ses collègues maires de l'agglomération et de tout le pays, il a été privé de cérémonie des vœux, évidemment, compte tenu du contexte sanitaire, mais le maire de Montluçon, président de Montluçon Communauté, Frédéric Laporte, est avec nous ce matin, bonjour.
Bonjour Damien, bonjour aux éditrices et aux auditeurs.
Et merci d'être avec nous pour faire le point sur ces dossiers 2022, évidemment de la ville et de l'agglomération de Montluçon, ce début d'année marqué évidemment par cette situation sanitaire, on le disait, 1651 cas pour 100 000 habitants dans le département, c'est le taux d'incidence assez vertigineux finalement à Montluçon. Pour l'instant, du côté du centre hospitalier, on tient le coup, notamment. Pour l'instant, il n'y a pas un impact aussi fort, en tout cas, que lors des précédentes vagues dans les services hospitaliers.
Alors, je mesurerai le propos dans le sens où il n'y a pas un impact aussi grave.
Aussi grave, ouais.
Parce qu'il y a finalement deux personnes en réa à cause du Covid. Par contre, il y a 44 ou 45 personnes hier hospitalisées et positives. Hein. Donc quand même avec des difficultés importantes. Hein. Ça veut dire qu'ils nécessitent des soins. Et il y en a à peu près dans tous les services. Là aussi, c'est un petit peu la différence par rapport à ce qui s'était passé précédemment. Donc ça mobilise quand même des effectifs, sachant que dans leurs propres effectifs, les agents hospitaliers sont eux-mêmes touchés. Donc on peut pas dire que ce soit facile. Par contre, c'est moins dangereux. Mais ça, on le savait, que plus il y aurait de vaccinés, moins il y aurait de conséquences dangereuses. Et c'est bien ça l'intérêt du vaccin.
Alors justement, en lien avec cette situation sanitaire, il y a une grève demain dans l'éducation nationale qui s'annonce très suivie. Que va-t-il se passer à Montluçon? Je crois qu'il va y avoir des établissements nombreux avec un service minimum d'accueil mis en place.
Oui, alors d'abord, au niveau local, nous, nos prévisions, elles ne sont pas aussi importantes que ce qu'est annoncé par les syndicats au niveau national. Alors je ne sais pas ce qu'il en sera en réalité, hein, mais on est à moins de 50%, autour de 40 et quelques pourcents. Ce qui veut dire qu'à partir de 25% d'absentéisme, la collectivité prend, en charge l'école, dans le sens de garder les enfants. Donc dans une quinzaine d'établissements que je ne vais pas citer là, mais je vous les donnerai, comme ça vous pourrez les citer un petit peu plus tard dans la journée. De toute façon, c'est affiché dans les écoles, hein, il y a primaire et élémentaire, et maternelle, pardon. Et donc on prendra la suite, évidemment, pour permettre aux parents de déposer leurs enfants quand ils n'ont pas de solution de garde personnelle.
Ouais, bien sûr. On a vu que certaines communes encourageaient les parents à garder les enfants s'ils le pouvaient, bien évidemment, à la maison. C'est ce que vous pouvez faire, évidemment.
Si une personne ne travaille pas, il vaut mieux qu'elle garde ses enfants chez elle, pour la simple et bonne raison qu'il aura moins de chances de contaminer et donc de contaminer sa famille. On en est bien là, parce que la deuxième solution pour éviter l'épidémie, évidemment, on le sait bien, hein, c'est ce qui s'était passé il y a deux ans, en mars 2020, c'est-à-dire qu'on est tous enfermés à la maison. On sort plus et là, on est sûr que le virus va s'arrêter. Mais sauf que c'est plus possible, on connaît les conséquences. Donc, on est passé sous d'autres méthodes.
Les syndicats réclament des aménagements dans les écoles, notamment ces fameux purificateurs d'air, ces détecteurs de CO2 notamment. Où est-ce qu'on en est à la ville de Montluçon? Il y a des investissements qui ont été...
On a mis ça en place l'année dernière, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un peu moins de grévistes à Montluçon. Mais dans toutes les classes, il y a des détecteurs de CO2. Et puis, on a des purificateurs d'air. Alors, pas forcément dans les classes, hein, mais plutôt dans les salles communes de restauration notamment. Hein. On avait installé ça déjà l'année dernière.
Ça continue? Vous continuez à mener des investissements ou...
Alors là, pour le moment, on n'en a pas eu de nouveau sur ce point-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on peut pas. C'est comme quand il y a des demandes de moyens humains, notamment. On peut pas trouver des gens compétents et formés pour aller en quelques semaines ou voire en quelques jours compléter dans les écoles, dans les hôpitaux. C'est des plans d'action qui durent une dizaine d'années pour arriver à mettre en œuvre tout ça. Parce qu'il faut aussi trouver des gens qualifiés, mais il faut aussi avoir de la main d'œuvre. Il y a des tas d'entreprises qui cherchent des salariés qu'ils ne trouvent pas. Alors c'est peut-être un peu moins le cas début janvier parce qu'il y a beaucoup de perturbations, mais sur le quatrième trimestre 2021, il y avait un manque de main-d'œuvre dans beaucoup d'entreprises en France. Ça veut bien dire aussi qu'il y avait un petit problème de ce point de vue-là.
Un petit mot pour boucler sur ce sujet, sur le centre de vaccination qui tourne à nouveau à plein régime.
Oui, bien sûr, le centre de vaccination, le centre de santé, puisqu'on va parler des projets. Effectivement, heureusement qu'on a réussi à mettre ça en œuvre, ça va aussi aider notre population à pouvoir passer ces caps difficiles de l'hiver et des contaminations multiples, et notamment de la pandémie du Covid-19.
Mmh. Dans certaines communes, il y a des centres de dépistage qui sont aussi adossés parfois aux centres de vaccination pour trouver des solutions, parce qu'on se rend compte à Montluçon qu'il y a souvent la queue devant les pharmacies, notamment, et devant les organismes qui font les dépistages. La collectivité n'a pas possibilité là de mettre des choses
Alors,
en place
là-dessus. C'est pas qu'on n'a pas possibilité, mais c'est que pour le moment, on n'a pas eu aussi une demande des professionnels, ouais, de mettre ça en œuvre. Et puis, de toute façon, ça, il faut que ce soit les professionnels qui le fassent. Hein. Moi, j'ai fait des tests dans ma proximité, dans ma famille. Hein. J'ai essayé de mettre ça en œuvre, mais c'est pas si facile. Aller enfoncer un coton-tige jusqu'à quasiment dans le cerveau, vous savez, ça se mesure quand même, ça se fait avec mesure, je veux dire. Donc, voilà, donc, faut que ce soit fait par les professionnels. Les professionnels, pour le moment, sont sur la vaccination. En ville, il y a quand même encore beaucoup de pharmacies et de pharmaciens qui sont au pied à l'œuvre, donc faut les laisser faire.
Voilà pour ces dossiers-là. Vous parliez de l'ouverture du centre de santé de Bien-Nassy. C'est une satisfaction, évidemment, depuis lundi. Est-ce qu'il y a d'autres projets en la matière?
Alors, il y a d'autres projets. Il y a surtout le projet de renforcer ce centre. Hein. On avait ce projet dès 2019, hein, comme je l'ai expliqué une ou deux fois avec l'Association des médecins retraités. Bon, ça a été perturbé par un certain nombre de gens qui... On n'avait pas forcément des intentions toujours très louables. On a réussi à remobiliser les troupes, si je peux dire, parce qu'ils n'avaient jamais perdu. Et puis la pandémie a aussi montré à tout le monde que on pouvait se mobiliser autour du thème de la santé. Alors aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de professionnels retraite qui interviennent justement dans le centre de vaccination et qui vont pouvoir après consacrer un peu de temps au centre de Bien-Nassy. Sachant que dès février, on a une kinésithérapeute qui s'installe. Mmh. Elle a elle-même un conjoint médecin qu'on espère bien faire venir à Montluçon. On l'annoncera quand ça sera fait, s'il vient. Et puis, comme ça, on aura un certain nombre de gens, de médecins salariés à temps plein et des retraités. Et au fur et à mesure des années, les retraités passeront par cette case de, j'allais dire, centre de santé de Bien-Nassy. Et grâce à ça, on va faire une véritable émulation qui nous permettra de recruter un, deux ou trois médecins salariés à temps plein, parce qu'il y a déjà une médecin salariée à mi-temps, que je ne désespère pas de faire augmenter son temps de travail. Mmh. Voilà.
D'autres dossiers, celui de la police municipale. Vous aviez lancé une consultation en fin d'année dernière auprès des Montluçonnais. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Ben là, on est en train de dépouiller les réponses, parce qu'on a eu pas mal de réponses papier, finalement. Hein. Le site internet a fonctionné, mais pas tant que ça. Donc, c'est un peu plus long à dépouiller le papier. Et nos collaborateurs, ils sont mobilisés sur d'autres problématiques, type la pandémie. Et puis, il y en a un certain nombre, malheureusement, qui sont eux-mêmes touchés. Mmh. Donc, je pensais que début janvier, j'avais prévu que, au vœu, on puisse avoir une idée précise. Mais là, je ne l'ai toujours pas. Donc, je vais pas m'amuser à annoncer des résultats. Sachant que 2000 personnes ont répondu favorablement, puisqu'on a 2000 réponses, et que c'était ceux qui étaient intéressés qui pouvaient répondre. Voilà. Ben, ceux qui étaient pas intéressés, forcément, ne répondaient pas.
Qu'est-ce qui va se passer du coup là? Vous attendez d'avoir les résultats pour vous fixer?
Oui, pour voir s'il y a un véritable attrait, puis quel type de le nombre de policiers, pour quelle problématique réelle, dans quel quartier on veut des interventions, sachant que je pense qu'il faut une présence plus importante d'un certain nombre d'agents de la ville de Montluçon étiquetés quand même et qui se démarquent, j'allais dire, du de l'agent standard, voilà.
Mmh. On aura une décision ferme, définitive, quand
est-ce que vous allez...
Ouais.
Au printemps, oui, tout à fait.
Au printemps. Le stationnement également, ça va changer à partir du 1er février. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il a fallu expliquer, il a fallu faire de la pédagogie, parce qu'il y avait certaines résistances, notamment de la part des commerçants.
Oui, mais il y en a toujours, sûrement. Mais je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris que le système d'abonnement était bien plus efficace que ce qui existait actuellement. Parce qu'avec 10 euros par mois pour un Montluçonnais, il se stationne en zone verte en temps illimité. Donc il a très largement le temps d'aller flâner sur le boulevard de Courtais toute la journée. Alors que là, il a 2 heures gratuites. Vous voyez? Donc c'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui qu'avant. Mais je pense que il y a des choses qui ont focalisé à la fin des 2 heures gratuites. On se focalise là-dessus alors que c'est pas ça la politique de stationnement. Et la politique de circulation et la politique de piétonnisation, parce que c'est tout un ensemble. On fait pas une politique avec des actions individuelles. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on reproche au niveau national. On fait une réaction, on fait de la politique en réaction. Nous, c'est pas notre objectif. On a réfléchi, on a consulté, contrairement à ce que certains peuvent dire, Alors, consulter, ça ne veut pas dire faire un questionnaire à 1000 personnes. Hein. Consulter, ça veut dire aller dans certains immeubles, consulter des syndics immobiliers qui font des assemblées générales, par exemple, aller voir certains commerçants, et pas forcément ceux qui sont dans une association ou qui ne le sont pas, consulter des habitants, des professionnels. Il y a d'autres professionnels, il y a beaucoup d'autres professionnels sur le secteur du centre-ville. Il n'y a pas que des commerçants, il y a des professions libérales, il y a des artisans qui interviennent, qui ont aussi des problématiques. Voilà. Donc c'est tout ça qui fait qu'on en arrive à avoir une politique avec quand même un objectif très clair, c'est malgré tout de limiter la circulation qui n'est pas essentielle pour le centre-ville, c'est-à-dire la circulation de passage, limiter la circulation dans la cité médiévale qui doit retrouver son caractère piétonnier le plus possible. C'est pour ça qu'il y a des petites rues qu'on veut isoler complètement pour pouvoir un petit peu limiter les passages de véhicules et donc pas faciliter ce passage. Voilà. Donc c'est toute cette politique qui est menée avec la volonté de mettre la cité médiévale, parce que ça c'est au cœur de notre programme, véritablement pour donner de l'attractivité à notre collectivité, à notre bassin montluçonnais, pour attirer la population, c'est-à-dire à faire que Montluçon soit une ville qui fasse bon vivre, où les habitants soient heureux, et puis attirer des touristes. Donc il faut protéger et mettre en valeur notre cité médiévale et notre centre-ville.
Piétonisation donc de certaines artères, ça vous l'avez décidé?
Alors artères, non.
Petites rues médiévales.
Petites rues,
la cité médiévale.
Non, on n'est pas sur le boulevard de Courtrai.
Bien sûr.
J'élimine totalement cette hypothèse-là. À titre personnel, en tout cas. Hein. Après, s'il y a une demande forte de la population, on l'étudiera, mais je ne le crois pas.
Bon, sur le boulevard de Courtrai, vous aviez évoqué la possibilité de réduire la vitesse à
oui,
une époque.
Oui,
ça existe toujours comme réflexion.
Oui, alors, les habitants et même les commerçants sont plutôt attirés par cette solution. On a vu sur les essais qu'on avait fait sur la rue Paul Constant, l'avenue Paul Constant, que la limitation à une voie limitait la vitesse, et finalement, les habitants y trouvaient du bon. Donc c'est quand même une chose qui est toujours à l'étude. Mais limiter la vitesse, ça a un intérêt si derrière on peut contrôler. Mmh. Parce que limiter la vitesse pour limiter la vitesse, ça n'a pas d'intérêt. Sachant que c'est surtout les soirs, les gens qui roulent vite, les deux roues quelquefois, et c'est ça, c'est là-dessus qu'il faudra qu'on agisse. Donc il va falloir qu'on se donne les moyens de contrôler, notamment un radar. Voilà, et ça, il faut une police municipale. Donc vous voyez, on n'en est pas encore tout à fait là, mais effectivement, c'est une décision qui pourra être prise.
Bon, un mot sur le projet de rénovation de la galerie Saint-Pierre, là, dans le secteur. Est-ce que ça avance? Où est-ce qu'on en est?
Ça avance. On a toujours des réticences, des gens qui ne vendent pas au tarif qui est prévu par les domaines. Donc, il va falloir qu'on aille vers des procédures judiciaires.
D'accord.
Mais ça va avancer.
Ça va avancer. En tout cas, c'est pas abandonné, le projet.
Non.
Un petit mot sur le marché couvert. Il était question à un moment d'en faire un ici, justement. C'est plus d'actualité.
C'est plus vraiment sur ce site-là. On se situerait plus dans la cité médiévale. Tout le monde l'a bien compris. Donc là, on est en train de faire une étude par un cabinet spécialisé sur les métiers dits de bouche, au sens large, pour faire ce qu'on a appelé, nous, un hall gourmande, mais il y aura une partie marché couvert et peut-être une partie restauration. Savoir d'abord si on a une vraie demande, parce que si c'est pour satisfaire 500 personnes, ça risque d'être un peu juste pour les commerçants. Savoir si on a une vraie offre, c'est-à-dire un certain nombre de personnes qui sont prêtes à s'investir, parce que ça sera pas un bâtiment municipal avec des agents municipaux, ça sera des professionnels. Donc une fois qu'on aura tout ça, le site, on va faire étudier justement s'il est adapté et adaptable, celui qu'on a en vue, et à partir de là, on ira discuter, on ira chercher à aménager, sachant qu'il y a une place devant qu'on veut aussi aménager. C'est-à-dire un ensemble dans un quartier qu'on veut réaménager pour lui donner un caractère encore plus vivant.
Place de la Poterie, c'est ça?
Par exemple, oui.
Par exemple. Beaucoup de Montluçonnais s'interrogent sur le multiplex de cinéma. Chaque année, on vous pose la question quand vous venez en début d'année, où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est toujours d'actualité, là aussi, Avenue de l'Europe?
Alors, c'est toujours d'actualité. Il y a des contrats qui ont été signés. Enfin, des contrats, des documents juridiques qui ont été signés par la collectivité. Il y a toujours un porteur de projet. Je le rencontre... Je sais plus si c'est cette semaine, je crois bien que c'est cette semaine, peut-être même aujourd'hui. J'ai pas regardé mon programme du jour. Enfin, je crois que c'est aujourd'hui ou demain. Je rencontre le directeur pour faire un point justement. Parce que en 7 ans, est-ce que les projets sont les mêmes? Est-ce que l'endroit, enfin, le site lui convient toujours? Sachant qu'il n'y a pas de, il n'y aura pas de médiathèque sur le site. Voilà. Bon, c'est ça qu'il faut qu'on ajuste. De toute façon, aujourd'hui, on a un seul projet, hein, un seul porteur de projet. Donc, de toute manière, pour le moment, il n'y a pas de raison de modifier les choses.
Bon, et puis rapidement, on en a déjà parlé sur cette antenne, mais 2022, c'est aussi l'année du patrimoine, ce sur quoi vous allez beaucoup travailler, rénovation du patrimoine de la ville.
Oui, alors c'est pas 2022, hein, c'est notre prochain mandat. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est de mettre en valeur notre patrimoine. Alors il y a deux types de patrimoine. Il y a le patrimoine historique, la cité médiévale notamment, et donc le patrimoine médiéval, avec le château des Ducs de Beaumont, l'esplanade, l'hôtel de ville, qui n'est pas médiéval, mais qui est magnifique, on veut lui redonner son lustre d'antan, la ville à Louvières, et puis à côté de ça, il y a le patrimoine, j'allais dire, d'activité. Les écoles, par exemple, l'année dernière, on avait investi 1,5 million de travaux et d'aménagement. Ben, cette année, on en fait un peu moins, 900 000 euros. Mais là aussi, on veut mettre notre patrimoine en avant parce que si on veut avoir de la population, il faut aussi avoir des écoles qui soient en mesure d'accueillir les enfants, par exemple. Donc tout ça, c'est une réflexion d'ensemble, un vrai plan d'action pour reconquérir un peu d'habitants et surtout stabiliser notre nombre d'habitants et l'attractivité de notre collectivité.
Frédéric Laporte, maire de Montluçon, président de Montluçon Communauté, merci.
Merci à toutes et à tous et meilleurs vœux à toutes et à tous.
Merci à vous. 7h57, on revient dans un instant, à tout de suite.
7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM.